It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Je serai le président de tous les Français.
Tous les Français.
Sans exclusive, sans appartenance partisane.
Tu fais un discours de président, président de quoi ?
Président de la France, quoi, tu vois, je me prépare un peu à l'avance, quoi, histoire de pas bafouiller.
Mais, enfin, c'est pas que je doute de tes chances, hein, mais on est d'accord que tu t'es pas présenté, t'as pas de parrainage.
Présenté ? Ah, pour 2022 ? Mais non, moi je vise 2027, enfin, évidemment.
Ah oui, tu t'y prends tôt, du coup.
Oui, j'ai déjà mon slogan d'ailleurs. Des palmes pour tous. Avec cours de natation gratuit dès la maternelle.
Ah ouais, c'est pas mal comme programme sport et santé.
Ah non, non, c'est pas sport et santé, c'est mon programme environnement.
Ah, c'est peut-être un poil exagéré, non ? Enfin, je sais que c'est pas la joie niveau climat, hein, mais...
Bah disons que je pars du principe que vu ce que les candidats ont prévu pour sauver la planète, et vu les prévisions du GIEC, les palmes en 2027, tu vois, ça me paraît pas si alarmiste que ça.
Ah non mais je sais, hein, je suis là aussi pour les podcasts, hein. T'aurais un programme super réaliste, hein, je dis pas.
Ah,
mais prêcher la fin du monde pour être élu, je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie en vrai. Hein.
Ouais, j'y avais pas trop pensé, ouais. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça se vend pas si bien que ça les mauvaises nouvelles, quoi.
Pour les politiques, pour les médias, ça marche bien.
Ça c'est vrai, hein, nous, ah la vache.
En fait, quand tu y réfléchis, y a pas de candidat collapsologue. Hein.
Non non mais attends, c'est pas vrai ça qu'il y a pas de collapso, c'est pas vrai, ils en ont parlé de la catastrophe à venir. Hein.
Ah ouais ?
Ah ouais.
Tu l'auras voulu, podcast !
Podcast !
Bienvenue dans L'Envers du Décor, le podcast environnement du service sciences du HuffPost. Dans L'Envers du Décor, chaque semaine, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif, bien sûr, de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal et franchement, vous avez raison. Mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec, surtout aujourd'hui. Moi, c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique qui a été élu meilleur papa du monde par son fils à défaut de président.
Bah, y avait qui d'autre comme candidat ?
Eh, et comme électeur.
Ouais, c'est clair. Super, ça c'est vraiment une élection extrêmement démocratique. Et moi, c'est Mathieu Balu, journaliste scientifique. J'aime beaucoup les élections et si vous me le demandez très gentiment par message privé, je vous dirai qui a été mon premier vote. Je vous garantis que vous serez surpris. Avant de parler élections, si on faisait un peu de contexte. Avant le générique, on parlait de la catastrophe environnementale à venir, mais est-ce que tu peux préciser ce que c'est, Greg, pour qu'on s'amuse un peu, quoi, qu'on commence avec une bonne ambiance ?
Bon, ok, mais par contre, asseyez-vous, faites-vous une petite boisson chaude, prenez votre doudou éventuellement, parce qu'on va rappeler quelques précisions qui sont pas très sympas, mais qui vont pas surprendre nos fidèles auditeurs. Premièrement, biodiversité. On parle actuellement de la sixième extinction de masse. C'est une étude de juin 2020 qui a été publiée dans une revue scientifique qui montre que sur les 29 000 espèces d'amphibiens, d'oiseaux, de mammifères, de reptiles, il y en a 500, donc à peu près 1,7%, qui sont au bord de l'extinction.
Ok, c'est bon, allez, on continue avec les océans. Alors c'est très simple, si on continue au rythme où on va, en 2050, dans l'océan, il y aura plus de plastique que de poissons. Voilà.
Biodiversité, océan, évidemment, il faut finir par le climat, hein.
Bien sûr, le réchauffement.
Le boss de fin. Au rythme actuel, la température, elle va grimper de 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle. Si on n'arrive pas à réduire drastiquement nos émissions de CO2. Et là, pour l'instant, on n'en prend pas du tout la direction. Alors que, je vous rappelle que l'accord de Paris prévoit de limiter le réchauffement à 2 degrés maximum, voire si possible 1,5 parce qu'au-dessus, ça va pas être joli joli ce qui va se passer.
On vous avait dit, hein, c'est vraiment un bon début de podcast, très sympa. Et donc face à ça, la campagne présidentielle, elle manque de réalisme, en tout cas moi j'ai l'impression. Enfin si on regarde les programmes, c'est genre développer le renouvelable ou limiter la chasse ou étendre le recyclage. C'est bien tu vois, mais je vois pas de prise en compte de ce qui nous attend, de ce dont on vient de parler en fait.
Ouais mais est-ce que c'est vraiment le cas tu vois, parce que... Cette campagne présidentielle, elle était un peu bizarre. Il y avait quand même une crise sanitaire, puis une guerre. On n'a quand même pas trop parlé des programmes, donc peut-être qu'on se trompe, non ?
Après tout, t'as peut-être raison. Je sais qu'il y a énormément d'éléments de programme dont les candidats n'ont pas pu parler à cause de l'actualité. Donc après tout, peut-être que c'était développé.
Bah attends, On n'a qu'à vérifier.
Allons-y.
Alors, on va commencer par... On va commencer à un bout de l'échiquier, hein, donc l'extrême droite. Ah ouais. Ouais, non, là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Et puis surtout, c'est, tu sais, il y a plusieurs associations qui défendent l'environnement. Donc, tu as Greenpeace, par exemple, qui a fait un classement. Eh ben, l'extrême droite, bah, ils sont très mal notés, hein, évidemment.
Après, bon, là, je suis pas vraiment surpris, tu vois.
Ouais, mais tu vois, il y a une autre asso qui s'appelle le Shift Project. Je ne sais pas si tu connais.
Si, mais raconte.
Alors, c'est une ONG aussi environnementale qui est dirigée ou qui a été fondée, en tout cas, par Jean-Marc Jancovici, qui est un ingénieur qui est spécialiste de l'énergie et qui, pour le coup, lui, il est plutôt pro-nucléaire, à l'inverse de Greenpeace. Et les programmes énergie de l'extrême droite prennent en compte le nucléaire et veulent le développer. Et pourtant, bah, le Shift Project aussi considère que l'extrême droite, c'est pas fou. Hein.
Donc ce que tu me dis, c'est quelle que soit la couleur politique des gens qui ont jugé le programme de l'extrême droite en matière d'environnement, c'est pas dingue.
Ouais. Après, encore une fois, c'est des ONG environnementales qui sont quand même bien engagées sur une voie de sobriété, etc., etc., tu vois.
D'accord, mais on peut dire qu'eux, au moins, ils voient le mur et qu'ils essayent de voir un peu ce qui, dans les programmes des candidats, pourrait s'adapter au mur qui nous arrive.
Ouais, alors que, en fait, si tu prends certaines propositions des candidats d'extrême droite, des fois, on a l'impression qu'on fonce plutôt dans le mur. Hein.
Ah bah en parlant de foncer, tu vois, là, je regarde le programme de Zemmour pour la question de la voiture, qui est quand même importante si on parle d'environnement.
Et d'ailleurs, on a fait un épisode entier là-dessus sur comment faire pour en finir avec la voiture et comment la remplacer, parce que les solutions sont pas simples, mais le constat l'est.
Et donc Zemmour, si tu regardes à la question de la voiture, bah qu'est-ce qu'il veut faire ? Supprimer les limites de vitesse sur les autoroutes, super, et supprimer les zones dites à faible émission.
Attends, les zones à faible émission, on est d'accord que c'est autour des villes pour éviter qu'il y ait trop de pollution aux particules fines et qu'on utilise des voitures trop polluantes, hein, c'est ça ?
Voilà, exactement. Ça fait partie des mesures un peu modernes pour limiter un peu la pollution de l'air des villes qui est catastrophique, quoi.
Ok, donc c'est quand même vraiment pas une mesure très bonne pour la planète, il me semble.
Non, c'est assez bien vu, c'est assez terrible.
Ok, mais là on parle de Zemmour, est-ce que Marine Le Pen c'est mieux ?
Bah écoute, si tu prends son programme à elle, par exemple, il y a l'arrêt de tout projet éolien, tu vois. Et ça d'ailleurs, Zemmour le propose aussi. Tu vois, tout le monde n'est pas à 100% d'accord sur l'intérêt et l'importance à donner à l'éolien. Ça n'empêche que ça, c'est clairement pas quelque chose qui s'engage vers la transition énergétique.
Ouais, t'as raison. Et puis d'ailleurs, quand tu regardes, bah, toujours selon cette analyse du Shift Project, bah, en fait, Marine Le Pen, elle fait pas du tout mieux que Zemmour en termes de propositions. C'est à peu de choses près la même chose. Il y a des nuances, mais dans tous les cas, c'est vraiment pas top, quoi.
D'accord. Donc pour résumer, à l'extrême droite, on peut pas vraiment dire que dans leur programme, ils nous parlent de la catastrophe à venir ou qu'ils parlent de nous y adapter. Allez, on passe à la droite ?
Alors, du côté de Valérie Pécresse, voyons voir. Ah bah tiens, chapitre de la biodiversité, cette promesse. Protéger les espaces naturels en fixant un objectif zéro plastique.
À la fois c'est ambitieux, et à la fois tu vois ça l'est pas du tout. Parce que je regarde là, il n'y a aucune date, il n'y a aucun levier particulier, aucune contrainte. Et tout ça, ça nous donne l'idée qu'en fait il nous reste du temps. Qu'on peut donner ça un peu sans date, sans deadline quoi. Et donc, on peut protéger l'environnement au final en continuant à produire un peu comme avant ou en produisant un petit peu mieux. Alors qu'en fait, non, hein, comme on l'a dit au début, c'est trop tard déjà ça.
Voilà. Et d'ailleurs, justement, bah, encore une fois, le Shift Project considère que Valérie Pécresse, elle va plutôt dans le sens des recommandations de ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone. La stratégie qui un peu donne les rails pour essayer de réduire nos émissions de CO2 pour être dans les clous de l'accord de Paris d'ici à 2050.
Ouais, ouais, donc les lignes directrices à suivre pour essayer de rester sous les 2 degrés de réchauffement.
Voilà, et du coup, Pécresse, là-dessus, elle coche un peu toutes les cases, en fait. Tous les points de la SNBC, ils sont abordés dans son programme. Le problème, c'est que c'est très limité, que c'est partiel, et que surtout, on ne sait pas trop comment ça va marcher. C'est quoi la ligne directrice ? C'est quoi le financement ?
Mais ça, tu vois, c'est vachement intéressant, parce que dans ce flou, en fait, il y a toute une problématique de droite et du rapport de la droite à l'environnement. Et si tu te souviens bien, on en avait parlé dans un précédent podcast.
Ça, c'était un podcast qu'on avait fait pour les régionales de mémoire l'année dernière, où on se demandait, est-ce qu'on peut être de droite et écolo ? Écoutez.
En revanche, il faut bien s'entendre sur ce que veut dire écolo quand on est de droite. Ça veut dire ne pas toucher aux valeurs qui sont les siennes. Il faut donc faire marcher écologie avec croissance,
écologie avec nucléaire,
écologie avec industrie agroalimentaire.
Tous ces sujets qui, pour certains, surtout à gauche, sont totalement incompatibles avec l'écologie.
Or, préserver les industries polluantes tout en donnant un coup de pouce aux politiques vertes, bah c'est plutôt une façon de ne pas choisir, voire de continuer à faire comme avant.
Bon, après, là on a mis 20 secondes d'extrait, le podcast il durait 20 minutes. Il faut quand même rappeler que la droite et l'écologie, c'est pas tout noir ou tout blanc.
Non, on peut même dire que dans les réalisations, si tu prends vraiment le concret, en fait, quand on avait fait le bilan des différents mandats, on s'apercevait que la droite avait plutôt fait autant, voire plus parfois que la gauche.
Voilà, il y avait le Grenelle de l'environnement quand même. Et puis, il y a des personnalités à droite qui aussi sont très engagées sur l'environnement quand ils essaient de faire des choses.
Oui, Nathalie Kosciusko-Morizet, par exemple, s'était vachement engagée à l'époque encore du mandat de Nicolas Sarkozy. Mais idéologiquement, c'est assez normal que le programme de Valérie Pécresse ne nous parle pas d'adaptation à la catastrophe à venir. C'est ça qu'on veut dire là.
Voilà, parce qu'en fait, si vous vous rappelez de ce podcast, ce qu'on disait, c'est que la droite comme la gauche avait un problème à comprendre l'écologie, à changer le logiciel politique, et la droite était très conservatrice là-dessus la plupart du temps. Mais les choses changent quand même.
Là, tu vas nous parler de notre président candidat, à mon avis.
Et oui, là en fait, on va faire référence à un autre podcast. C'est une série de... Comment on appelle ça déjà ? C'est une série de flashbacks, cet épisode.
Ouais, c'est génial.
Est-ce que vous vous rappelez de cette fameuse phrase d'Emmanuel Macron ?
Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish.
Donc c'était un podcast, vous vous rappelez, au moment de cette phrase, on s'est justement demandé, est-ce que c'est possible de critiquer la technologie sans être un Amish ? Et dans ce podcast, ce qu'on expliquait quand même, c'est que notre président, c'était un peu le plus grand représentant en France d'un courant de pensée qu'on appelle l'écomodernisme.
Voilà, c'est un peu à part de ce dont on vient de parler justement sur la droite traditionnelle et son rapport à l'environnement et à la modernité. C'est une conception du progrès qui nous dit, certes, il y a un mur qui arrive, mais si on progresse suffisamment et suffisamment vite, on va arriver à passer par-dessus.
Voilà, en fait, plutôt que de freiner, il faut accélérer. Alors ouais, notre président, c'est un peu un techno-enthousiaste. Et d'ailleurs, il y en a plein dans la Startup Nation. Mais il y a des gens beaucoup, beaucoup plus enthousiastes que lui. Par exemple, les transhumanistes, qui veulent libérer l'humain de ses limitations par la technologie. Et il y a même une frange encore plus particulière, ceux qui attendent la singularité.
La fameuse singularité. Pour ceux qui l'ignorent, l'humanité telle qu'on la connaît, elle a une fin. C'est lorsque l'intelligence artificielle aura atteint un tel niveau qu'elle sera devenue Dieu. Elle répondra à tous nos besoins, elle résoudra les défis environnementaux, elle préviendra tous les conflits, bref, elle veillera sur nous.
Et si ça vous fait doucement rigoler, bah déjà rappelez-vous que vous écoutez probablement ce podcast dans les transports en commun, et que les gens doivent penser que vous êtes bizarre là, à rire tout seul. Et puis surtout, dites-vous que des spécialistes de l'IA qui ont un très très gros cerveau, comme Ray Kurzweil et Ben Gurdzel, y croient dur comme fer à l'avènement de cette singularité.
Et tous deux la voient arriver dans 25 ans à peu près. Mais en réalité, ça tient aussi à de la croyance, et beaucoup de scientifiques repoussent cette approche. D'abord parce que le futur est incertain, ensuite parce que les ressources de la planète sont limitées. Donc rien ne dit qu'on atteindra un tel bond technologique avant que l'environnement nous rappelle ses limites. Et le consensus actuellement, c'est plutôt qu'avec le progrès, on fonce dans le mur.
Bon, honnêtement, on va pas se mentir, si on aime un minimum la technologie, le confort de nos sociétés occidentales, c'est attirant ce modèle.
Voilà, parce que ça nous dit, ok, on est réaliste, mais en même temps, on peut garder notre mode de vie.
Mais par contre, le problème, c'est que du coup, c'est pas basé sur la science, vraiment. C'est faire confiance à la science. C'est croire en une révolution technologique qui va arriver comme, je sais pas, la fusion nucléaire ou la croissance exponentielle de la construction de solaire ou quoi. Il y a des choses qui sont vraies, mais c'est quand même un pari, en fait, un peu.
Oui, c'est pour ça qu'on peut pas non plus dire que c'est un programme forcément réaliste. Et d'ailleurs, je sais pas, si tu regardes le Shift Project, je sais pas, est-ce qu'il note Emmanuel Macron très bien en tant que candidat ?
Eh ben, il le note plutôt bien. Il se positionne sur la plupart des choses, mais il a quand même, pour beaucoup, une couverture assez limitée, sauf justement sur la production d'énergie.
Du coup, pour conclure sur le candidat Macron, on peut dire que lui, son programme environnemental, il prend en compte ce qui nous arrive dessus, mais il ne parle pas vraiment d'adaptation, puisque justement cette foi dans le progrès va faire qu'on va en quelque sorte s'adapter sans s'en rendre compte, quoi. Et ça, ce n'est pas vraiment ce que j'appelle s'adapter, en fait.
Alors justement, tu vois, s'il y a bien un candidat qui met pas mal ça en avant, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. Le côté s'adapter, le côté le changement climatique, il est là. C'est déjà une catastrophe, ça va l'être encore plus.
Donc lui, il dit vraiment ça. C'est-à-dire, il explique vraiment dans son programme, on va vers quelque chose de catastrophique.
Alors, c'est même pas dans son programme, c'est plus de manière générale, tu vois, et ça fait longtemps. Le 13 décembre 2020, il disait déjà, la lutte contre le changement climatique est malheureusement perdue. Désormais, on sait qu'il aura lieu. On peut se battre pour le limiter, mais il faut surtout s'adapter à ses effets et il faut qu'on s'y mette tous. Et même en 2012, il parlait même de la décroissance, qui n'est pas une option, mais une nécessité. Il faut décroître, mais de manière différenciée. Ça me rappelle quelque chose, moi, cette décroissance.
Ah, moi aussi. On n'avait pas fait un podcast là-dessus, dis donc.
On avait carrément fait un podcast sur la décroissance au moment de la primaire écolo, justement. C'était Delphine Bateau qui était la seule, en fait, à défendre ce concept de décroissance. Tu peux peut-être nous résumer ce que c'est la décroissance ?
Oui, alors la décroissance, en fait, il faut surtout le définir en disant ce que ce n'est pas. C'est-à-dire qu'on s'imagine par le mot décroissance qu'il s'agit de décroissance économique au sens de la croissance du PIB qu'on connaît tous. En fait, non, ça veut dire justement prendre appui sur d'autres choses, sur d'autres relais que la croissance traditionnelle pour faire grandir notre société ou en tout cas la faire évoluer parce que de toute façon, avec ce qui nous arrive dessus, et c'est en ça que les décroissants sont profondément inspirés de la catastrophe à venir, de l'effondrement à venir, on ne pourra plus se développer de la même façon. Et si le mot décroissant a fait florès, c'était justement pour casser des idées reçues ou une idée qu'on se faisait de ce que c'était que la société et le développement de la société.
En gros, la décroissance, c'est pas une idée du futur de se dire on va décroître, c'est plus une manière de détruire le mythe actuel qui est que la croissance et le PIB, c'est la seule manière vraiment d'avoir du bonheur en fait. Et du coup, on appelle ça un peu un mot au but. C'est un concept qui est là pour casser, pas pour construire.
Et là où c'est intéressant, c'est que effectivement, ces décroissants, ils sont clairement dans l'adaptation. Pour le coup, ils ont clairement compris que les choses allaient pas se passer bien dans les décennies qui viennent et que donc il faut y faire face. Sauf que, comme on l'a dit, la représentante du mouvement décroissant chez les écolos, c'était Delphine Bateau. Et Delphine Bateau, elle a perdu face à Yannick Jadot.
Après, bon, Yannick Jadot, ça reste le candidat Europe Écologie Les Verts. Donc évidemment, il a un programme profondément écolo.
C'est sûr, et on pourrait même dire qu'il a un programme qui est en partie décroissant. Très honnêtement, c'est juste que lui rejette vraiment l'usage du mot décroissant, pour des raisons de marketing politique.
Voilà, et d'ailleurs, quand on regarde sur les différents classements dont on parlait, Greenpeace ou le Shift Project, il est très bien noté, il se positionne sur toutes les thématiques de la stratégie nationale bas carbone, plutôt de la bonne manière. Et mine de rien, il met aussi en avant le fait qu'il va falloir s'adapter, le fait qu'il y a un problème.
Voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, je crois qu'il est plutôt mieux noté par le Shift Project que Mélenchon, ou en tout cas, il a à peu près la même note, quoi.
Bah, en fait, c'est très proche, voilà, tout à fait. Ça dépend si tu prends en compte plutôt le côté gouvernance générale ou les réformes par secteur. Il a plus de propositions fortes sur la gouvernance, Jadot, alors que Mélenchon a plus de propositions fortes par secteur, en fait.
D'accord, ouais, donc on peut dire que lui aussi, il a un programme quand même qui est tourné vers l'adaptation, mais juste, on va le redire, ce qui est intéressant, c'est qu'il va moins employer les mots de l'adaptation et de la décroissance. Et ça, il l'a explicité, en tout cas pour la décroissance notamment. Il a dit, et là, je vais ouvrir les guillemets pour citer Jadot, il a dit « Quand le terme décroissance est arrivé dans le débat public, l'idée c'était d'avoir un mot au but sur le sens de la croissance. Si la croissance n'a aucun sens, la décroissance n'a pas beaucoup plus de sens. Sous-entendu, je vais pas essayer de vendre ça électoralement, parce que c'est pas bon et c'est pas vendeur. Mais pourtant, dans mon programme, je vais quand même parler d'adaptation. »
Mais en fait, tu vois, ce qui est intéressant là-dedans, il n'a pas tort, c'est que moi j'ai l'impression que la décroissance, c'est quelque chose qui est là pour casser quelque chose, mais elle ne construit pas, elle n'imagine pas un nouveau monde, elle n'imagine pas des choses différentes, elle ne donne pas les moyens de rêver à des jours meilleurs, justement, tu vois.
Oui, après, on peut se dire aussi que ne pas être collapso dans son discours, c'est une manière aussi de ne pas être pédagogue sur le mur qui vient, tu vois. On peut se dire, c'est peut-être ne pas assez informer les gens sur l'urgence.
Et on en revient à ce podcast qu'on avait fait sur justement l'effondrement, où on parlait du fait que la collapsologie, c'est pas une science et c'est en fait plus une croyance qu'autre chose, mais que par contre, le mur à venir, et ça c'est ce que disait le philosophe Jean-Pierre Dupuis, qui expliquait que justement il faut être conscient de la catastrophe à venir, conscient du fait qu'elle arrive pour justement pouvoir la déjouer si on se dit qu'elle arrive et quoi qu'il arrive, on ne peut rien faire et qu'elle est inéluctable, bah en fait, on va rentrer dans le mur. Si à l'inverse, on ne regarde pas devant nous, bah on va rentrer dans le mur aussi. Donc ce qu'il faut, c'est regarder le mur pour comprendre soit comment passer au-dessus, soit comment passer à travers, soit comment prendre un chemin détourné. Et si on ne fait pas ça, bah en fait, on n'arrivera même pas à se poser la question.
Et là, c'est le moment où je m'aperçois qu'il reste pas mal de candidats dont on n'a pas parlé, Greg.
Alors c'est sûr, ils ont tous un programme. Mais là, ce qu'on a essayé de faire, en réalité, c'est quand même plus de définir des familles de pensées que les candidats par rapport à l'environnement. Regarde par exemple Roussel. Il propose d'investir pour aider les territoires à s'adapter au changement climatique. Donc là, on a clairement le côté adaptation.
Oui, voilà, ça c'est une mesure tout à fait écolapso, quoi.
Mais par contre, tu vois, même s'il propose quelques petites choses sur la décarbonation pour le transport avec la voiture électrique, c'est quand même pas souvent mis en avant.
D'accord, donc c'est assez nuancé. Finalement, ça reprend des éléments de ce dont on vient de parler. Et en même temps, c'est un peu plus tiède sur d'autres aspects, par exemple qu'un Mélenchon.
Et si on prend un autre exemple totalement à l'opposé de l'échiquier politique, si tu prends Dupont-Aignan, il veut investir dans la rénovation des bâtiments, ce qui est plutôt tendance écolo de droite moderne, on va dire, et en même temps avec un budget pas du tout suffisant.
Ça illustre justement ce dont on a parlé à l'instant, c'est-à-dire que les lignes de fracture, elles sont pas seulement entre candidats, elles sont même pas seulement entre couleurs politiques. Là, c'est une question de vision et de ce que tu vas prendre dans chaque courant de pensée, et j'ai l'impression que ces mouvements de pensée, on en a un peu fait le tour là.
En tout cas, le premier tour. Du coup, en fait, si je résume toute cette histoire, ce qui est fou quand même, c'est que derrière le clivage gauche-droite classique, il y a un peu une séparation au sein des familles politiques, tu trouves pas ?
Ça c'est sûr. D'un côté, on a la droite et l'extrême droite, disons, assez classique, quoi, qui n'a rien changé, ou en tout cas va mettre un peu d'eau dans son vin avec des mesures vertes, parce que c'est quand même un peu dans la tendance du moment.
Ouais, même si encore une fois, comme on l'a dit, il n'y a pas tout acheté là-dedans, et il y a des projets qui vont dans le bon sens.
Oui, voilà, il ne s'agit pas de tout balancer. Et de l'autre côté, toujours à droite, ou en tout cas plutôt à droite, on a des éco-modernistes qui font face au futur, à un futur assez sombre, mais ils lui font face avec confiance, quoi.
Voilà, qui sont conscients du mur, et qui sont persuadés que c'est le progrès qui va leur permettre de trouver une voie de bifurcation ou de passer au-dessus.
Alors que si ça se trouve, ils sont juste en train d'accélérer en klaxonnant en plein vers le mur. Mais ça, on le verra que quand on est dans le mur ou au-dessus.
Et dans le même temps, à gauche, c'est vachement différent. On a d'un côté une vieille gauche qui ne veut pas trop faire peur et qui veut pas trop mettre en avant ce risque de catastrophe. Qui l'accepte, mais qui le dit pas trop.
Oui, parce que les lendemains qui chantent, ça c'est quand même une idée de gauche, tu vois. Et je pense pas que véhiculer le pessimisme ce soit facile quand on se dit de gauche, qui est quand même par définition plutôt l'idée justement du lendemain qui sera meilleur que la veille.
Et de l'autre côté, on a une gauche qui accepte plus de dire justement le changement climatique arrive, les dérèglements environnementaux sont là, il faut s'y préparer, il faut essayer de les limiter, mais il faut s'y préparer, il faut se préparer à ce que le monde change. Et ça, c'est quand même assez déprimant.
C'est vraiment assez déprimant. Parce qu'en fait, au fond, ça veut dire renoncer à un modèle qui nous a beaucoup donné, qui nous a tout apporté, en tout cas depuis pas mal de décennies. Et en plus, ce changement, ça va nous demander des efforts énormes. Et en plus, ces efforts énormes, on n'est même pas certain de leurs résultats.
C'est ça, parce que mine de rien, on parlait de la croyance des écomodernistes, il y a aussi une croyance dans plein de programmes de modification qu'on peut voir justement dans les programmes de Mélenchon ou de Jadot, où on imagine une transition énergétique et une taxation des produits pétroliers. Il faut se rappeler, mine de rien, que les gilets jaunes, ça part d'une taxe carbone et d'une hausse du prix du carburant, qui n'était pas aussi élevé que ce qu'on a aujourd'hui en plus, hein, et qui ne sera rien comparé à ce qu'on va vivre dans les décennies à venir.
Pour ajouter à ce que tu dis, c'est vrai que par exemple, quand on entend Mélenchon parler, on sait qu'il axe beaucoup sur le fait qu'on trouvera des solutions dans le futur si on s'y met tous ensemble. Ce qui a à la fois un côté enthousiasmant et justement un côté à mettre en parallèle avec l'écomodernisme, qui est, si on y croit fort, on trouvera la solution. Mais cette fois, à mon avis, elle fait aussi un peu partie de ce qu'est la politique. C'est-à-dire choisir entre différentes solutions, dont on ne peut pas dire scientifiquement que l'une est meilleure que l'autre.
Exactement. Et la politique, c'est avant tout de faire confiance en une personne, en un programme, en une vision de l'avenir. Le problème, c'est que pendant des années, la vision de l'avenir par rapport à l'environnement, elle était cachée. Là, elle commence à émerger, comme on vient de le dire. Et je pense que le vrai problème, c'est pas de savoir qui a raison, c'est qu'on n'en parle pas assez. Et qu'on n'en a pas assez parlé dans cette campagne.
Et qu'on n'a plus vraiment le temps d'en parler.
On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager à vos amis. Et surtout,
replongez-vous s'il vous plaît dans les programmes des candidats avant de voter, en particulier évidemment tout le volet environnement.
Parce que l'important, c'est pas pour qui vous votez, c'est de voter.
Salut !
Salut !